Un homme qui s'appelle Houston Smith a écrit un livre, Les religions de l'homme. Et il a écrit que l'histoire ne connaît que deux hommes qui étaient si extraordinaires qu'on ne demandait pas qui ils étaient, mais ce qu'ils étaient, âme ou Dieu. Ces deux hommes, c'est Jésus de Nazareth et le Bouddha. La réponse du Bouddha à cette question est claire et nette. Il dit, je ne suis qu'un sage parmi les hommes. Je ne suis pas un Dieu. La réponse de Jésus est un peu plus ambiguë. Il dit, je suis fils d'homme et je suis fils de Dieu. Le Bouddha disait, c'est pas sur moi que vous devez porter votre attention. C'est sur mon dharma, mon enseignement. Jésus dit, venez à moi. Moi, je suis la vérité, le chemin et la vie. Bouddha disait, soyez vous-même votre propre lampe. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. En fait, les prétentions du Bouddha et du Christ sont si radicalement différentes qu'on peut se demander si le bouddhisme est une religion. C'est un système de pensée, sans être athée, mais n'a rien à dire au sujet de Dieu. Hein, Bouddha ne parle jamais du Brahman, contrairement à l'hindouisme, d'où il est venu. Il ne parle non plus de l'atman, c'est-à-dire de l'âme. Il dit que l'âme est anatta. L'âme est sans âme. Alors là, je vais vous dire ce que j'ai lu, même si je ne le comprends pas. Le Bouddha disait que nous sommes l'union de cinq khandhas. Bon, je ne sais pas ce que c'est un khandhas. C'est un centre d'énergie. Hein, comme dans un champ d'énergie, il y a des centres de tension. Et le Bouddha disait que quand ces cinq centres de tension se réunissaient, ça créait l'impression d'exister, l'impression d'une existence individuelle, la réalité consciente d'un moi. Le bouddhisme ne nie donc pas l'existence de Dieu, mais il garde un seul silence total au sujet de lui. Par contre, il ne garde pas le silence au sujet de l'âme, du moi. Écoutez, voici la phrase. L'élimination radicale du moi est le cœur de toute la philosophie bouddhique. L'élimination radicale du moi. Encore, j'ai connu ça à mon époque, quand je suis arrivé en France en 75, le bouddhisme était très populaire. On disait que le bouddhisme était la troisième religion de la France. Tout le monde se disait bouddhiste. Plus maintenant. Hein? Pourquoi? Parce que je crois que c'est ces gens qui cherchaient la réalisation du soi, quand ils se sont rendus compte que le bouddhisme exigeait la suppression radicale du moi, ben c'est exactement le contraire. Et de tous les désirs humains, c'est exactement le contraire de ce que eux y cherchaient. Le Bouddha nous enseigne à nous détacher de tout. Ne pas éprouver des désirs. À ne pas aimer. Comme l'hindouisme, au lieu d'enseigner un amour volontaire, l'agapé, le bouddhisme enseigne un sentiment impersonnel et universel de compassion. Et dans notre société aujourd'hui, on entend parler beaucoup plus de compassion que d'agapé. La compassion et l'amour engendrent des comportements qui se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire la morale bouddhique ressemble très fort à la morale biblique. Ça engendre les mêmes actes. Les mêmes comportements extérieurs. Par contre, ces actes de compassion sont accomplis dans un esprit totalement différent. Cette différence est illustrée par l'histoire d'un moine bouddhiste. Vous connaissez qui est Saint Martin, j'espère, hein? Vous les Français au moins. Saint Martin, c'est un peu le plus grand saint de France. C'est un officier romain qui s'est converti au christianisme. Et un jour, il revient à la forteresse, il y a un mendiant devant les portes de la ville. Il faisait très froid, c'était en plein hiver. Et le mendiant demandait un manteau pour ne pas mourir de froid. Martin était un officier romain. À l'époque, c'est les officiers qui payaient la moitié de leur équipement et c'est l'État romain qui payait l'autre moitié. Donc ce que Martin a fait, il a pris son manteau, il l'a coupé en deux et il a donné la moitié qui lui appartenait au mendiant, il a gardé la moitié qui appartenait à l'État. Il y a plus de villages et de villes en France qui s'appellent Saint-Martin que n'importe quel autre. Bon, ce moine bouddhiste, il fait un peu pareil que Saint-Martin. Il voit un mendiant, en fait c'est un voleur, et lui donne son manteau. Mais il ne dit pas « je fais ça parce que je vous aime ». Il ne dit pas « j'ai fait ça parce que Jésus ou parce que Dieu vous aime ». Il dit « ben, c'est ce que ferait un homme éclairé ». Si vous avez froid, vous avez deux gants sur la même main, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes un homme éclairé? Vous allez prendre un des gants, le mettre sur l'autre main. Le but de la charité dans le bouddhisme, ce n'est pas d'assurer le bien-être du bénéficiaire de cette charité. C'est pour se débarrasser de son égoïsme. C'est se débarrasser de ses désirs. On pourrait atteindre le même résultat sans bénéficiaire du tout. Il aurait pu jeter le manteau à la rivière. Hein? Je vais vous raconter une parabole bouddhique et vous allez réfléchir pour voir si vous pouvez l'interpréter. Il y a un homme qui est poursuivi par un tigre, mangeur d'hommes. Il court comme un dératé. Malheureusement, il arrive à une falaise. Le tigre avance. Le seul moyen de s'échapper, c'est de descendre. Il voit une liane à côté. Ah, il commence à descendre la liane. Malheureusement, il arrive à mi-chemin, il regarde en bas, il y a un deuxième tigre qui l'attend. Et puis, il regarde en haut, il y a deux souris qui sont en train de grignoter la liane. Bon, c'est une souris blanche et une souris noire. C'est le yin et le yang. Juste avant que la liane cède, il voit une fraise des bois qui pousse sur la falaise. Il la cueille et il la mange. C'est fini. Alors nous autres, les non-éveillés, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il va ? Ils doivent prendre la fraise, essayer de distraire le tigre. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'homme, voici l'explication. L'homme avait pour le tigre le même goût que la fraise avait pour l'homme. C'est-à-dire, le tigre, la fraise, les souris, tout ça, ne font qu'un. Ils ne se sont pas des êtres séparés. Il ne faut pas craindre la mort, parce qu'il n'y a personne là pour mourir. Quand il mange la fraise, c'est la même chose que quand le tigre va le manger. Selon la doctrine bouddhiste, maintenant vous pouvez regarder le petit schéma dans vos notes, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le désir. Le désir de ce qui m'appartient à moi. C'est que ce que moi je veux. Ça, c'est l'égoïsme. L'égoïsme engendre l'illusion d'une existence individuelle. Ça, c'est pas de la pensée occidentale du tout. Selon la pensée occidentale, chrétienne ou sécularisée, c'est le moi réel qui engendre l'égoïsme. Le moi peut engendrer autre chose, l'agapé aussi. Le moi peut être égoïste, où le moi peut choisir l'amour. un amour désintéressé. Pour le bouddhiste, l'agapé est impossible. Impossible. Parce que le moi est le résultat déjà de l'égoïsme. Si vous croyez que vous existez, déjà vous êtes égoïste. Comprenez? Vous ne pouvez pas ne pas être égoïste. Tant que vous croyez que vous existez en tant qu'individu. Le moi n'est pas une cause qui peut produire des résultats différents, des effets différents. Le moi est une illusion produite par l'égoïsme. Bon, voilà ce que j'ai essayé d'expliquer avec ce schéma. C'est pas réjouissant, hein? Alors, comment cette philosophie, qui est vraiment pessimiste, qui est nihiliste, qui est une négation de tout désir, une négation de toute vie, comment est-ce qu'elle a pu devenir si populaire? La réponse est sans doute est à chercher dans la personne même du Bouddha. Son caractère, les événements de sa vie, et surtout ce qu'il appelle son illumination, son éveil. Comme Jésus, le Bouddha prêchait un message très choquant. Jésus prêchait un message très choquant. Je suis étonné qu'on ne soit pas plus choqué par le message de Jésus. On devrait. Le Bouddha aussi. Et comme Jésus, on acceptait le message choquant de Bouddha à cause de la personne de Bouddha. Comme nous acceptons le message choquant de Jésus à cause de la personne de Jésus. Si moi j'essaie de prêcher le message de Jésus ou de Bouddha, aujourd'hui, on me mettrait dans un asile. On rirait au nez. Mais le Bouddha et Jésus possédaient tous les deux quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de profond, qui rendait crédible leur message incroyable. Les événements de la vie de Bouddha sont assez dramatiques. Nous donnent un indice au moins pour expliquer son influence sur les hommes. Cela dit, il ne faut pas croire que la personne du Bouddha est nécessaire à son enseignement. Le bouddhisme pourrait très bien exister sans le Bouddha. Son dharma, ce qu'il appelle son enseignement, n'est pas lié organiquement à sa personne. Pas la même chose pour le christianisme. Sans le Christ, il n'y a pas de christianisme. Le christianisme se réduit à un système éthique, le sermon sur la montagne, quelque chose comme ça. Mais sans le Christ, il n'y a pas de christianisme. Mais sans le Bouddha, le bouddhisme pourrait toujours exister. Le Bouddha prétend que nous sommes tous endormis avant de connaître l'expérience mystique, avant d'être illuminé, avant d'être éveillé. Et sa propre vie va nous montre comment lui, il est devenu le Bouddha, comment il est devenu l'éveillé. Le Bouddha est né vers 560 avant Jésus-Christ. D'accord? Cela vous aide à situer. C'est à peu près l'époque où Jérusalem tombe entre les mains des Babyloniens. Nabucodonosor, à peu près. C'est un prince. Il est le prince d'un petit roi dans une section au nord de l'Inde. Toutes les traditions s'accordent pour dire qu'il a eu une enfance très protégée. Son père, qui était le chef, il a décrété que son fils ne verrait jamais quelque chose de malheureux ou d'affligeant. Il faut lui épargner toute vision de choses malheureuses. Vous parlez de parents hélicoptères. Ils n'avaient même pas le droit de voir quelqu'un de malade, ou quelque chose comme ça. Bien sûr, ça pouvait pas durer éternellement. Et un jour, le Bouddha va sortir. D'ailleurs, il s'appelait pas le Bouddha. Le Bouddha, c'est un titre. C'est pas son nom. Son nom est Siddhartha Gautama. Le Bouddha, c'est un titre, ça veut dire, on pourrait dire l'illuminé, mais C'est un sens péjoratif en français. C'est l'éveillé. L'éveillé. Comme Jésus, le Christ, c'est pas son nom, hein. Il s'appelle pas Jésus, deuxième prénom, Christ. Hein? C'est Jésus, le Christ. C'est Siddhartha Gautama, le Bouddha, dit-il. Ben, un jour, le Bouddha va sortir. Il va entrer en ville, sortir du palais, et là, il va voir trois choses qu'il n'avait jamais vues auparavant. Il va croiser un vieillard au seuil de la mort. Il va croiser un homme malade de la peste et un cortège funèbre qui amène un corps pour être brûlé. Ça veut dire quoi? Pour la première fois de sa vie, il rencontre la vieillesse, la maladie et la mort. C'est un adulte, hein? Et puis, il va faire une quatrième sortie, et là, il va rencontrer un moine. Bien sûr, c'était un hindou, hein, parce qu'on est dans un pays hindou. Et il est vraiment impressionné par le regard de sérénité sur le visage de ce moine. Alors, il dit, ça c'est pour moi. Il quitte sa femme à 29 ans. Le Bouddha a 29 ans. Il quitte sa femme. Il quitte son fils qui vient de naître. Il les laisse derrière lui. Il les abandonne. Et il part à la recherche de la vérité. Pendant 6 ans, il se livre à des pratiques ascétiques extrêmes. Après 6 ans, il dit, mais ça sert à rien. Tout ce que je fais, c'est de me torturer le corps et m'abrutir l'esprit. Ça ne mène nulle part. Donc il va abandonner cet ascétisme extrême. Après avoir mangé son premier bon repas depuis 6 ans, c'est peut-être pour ça qu'il va avoir cette expérience, je ne sais pas. Il va s'asseoir en position de lotus sous un figuier. Et là, il va avoir son expérience d'illumination. Il va s'éveiller. Il cessa d'être un bodhisattva, celui qui cherche la lumière, et il devient l'éveillé, le Bouddha. Cet éveil, il faut l'expérimenter. Vous ne pouvez pas l'apprendre. Pas quelque chose que vous pouvez venir à une conférence et apprendre comment s'éveiller mystiquement. Il faut connaître soi-même l'expérience. Le bouddhisme est surtout une affaire d'expérience mystique et non pas de doctrine. Et pourtant, la première fois que le Bouddha prêche, il énonce 4 doctrines. Il y a quand même des doctrines. On les appelle les 4 nobles vérités. Quand ses disciples lui demandent, oh mais, dis-nous autre chose, faut aller plus loin. Il refuse. Chaque fois, il refuse. Il dit, tout ce qu'on pourrait ajouter ne tendrait pas à l'édification. La première noble vérité affirme que toute la vie humaine est dukkha, souffrance, douleur. Le mot désigne un état de dislocation, de séparation. C'est quelque chose qui ressemble un peu au péché. Mais il n'y a pas de dimension relationnelle ici. On n'est pas séparé d'une autre personne. La souffrance bouddhique est une rupture, mais pas une rupture avec une autre personne. C'est une rupture à l'intérieur de soi-même. L'angoisse. Tous les états de souffrance mentale par lesquels nous devons passer. La naissance est une angoisse. La vieillesse est une angoisse. La mort. Tous ces états d'angoisse sont la mauvaise nouvelle dans le bouddhisme qui précède sa bonne nouvelle. Il y a toujours une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle dans les religions. La mauvaise nouvelle dans le bouddhisme, c'est la souffrance. La vie humaine, essentiellement, c'est la souffrance. Ça, c'est la première noble vérité. La deuxième noble vérité définit l'origine de cette souffrance. D'où vient cette douleur? D'où vient cette angoisse? Je cite. C'est la soif de l'existence conduisant de renaissance en renaissance, accompagnée du plaisir et de la convoitise. Toute souffrance provient, selon le Bouddha, de ce qu'il appelle tana. C'est l'attachement à l'expérience des sens, hein, les plaisirs d'ordre physique. C'est le besoin d'exister. C'est le goût de la vie. C'est le désir de vivre. Et donc, c'est difficile de traduire ce mot tana par un seul mot français. Voici ce que dit un certain Edmund Holmes, qui a écrit le credo du Bouddha. C'est le désir de ce qui appartient au moi irréel qui engendre la souffrance. Hein, le moi, c'est une illusion. Et le moi est créé par des désirs égoïstes. La souffrance vient de ces désirs égoïstes. Vous suivez? Le désir d'affirmer son moi intérieur. Bon, là, c'est le but de l'Occident. Hein. D'affirmer notre moi. Le Bouddha sait, c'est la source de toute souffrance. Le désir d'affirmer son moi intérieur, de vivre selon lui, d'y tenir, de s'identifier avec lui, au lieu de s'identifier avec le moi universel, ce désir-là est mauvais. Certaines autorités bouddhistes distinguent trois formes de tana. Il y a d'abord le désir de jouissance d'ordre physique. Deuxièmement, l'attachement à l'existence. Et puis la forme la plus mauvaise de tana, c'est le désir de l'immortalité, le désir de vivre éternellement. Cette deuxième noble vérité explique pourquoi les bouddhistes ne croient pas à l'âme. Alors, je vais pouvoir illustrer cela. Les simistes reconnaîtront, ça c'est notre moi pensant, ça, c'est le sujet pensant, c'est le moi. Si, ça c'est un objet que je veux. Si je veux un objet, ça crée l'illusion qu'il y a un moi et puis un objet séparé. Ça c'est une illusion. Tout est un. Il ne peut pas y avoir un moi qui veut quelque chose de séparé de lui. Et le fait qu'on désire cette chose crée l'angoisse, crée la souffrance en nous. L'illumination consiste à éliminer ce désir. C'est logique. Si la souffrance vient de nos désirs, si on élimine les désirs, on élimine la souffrance. La troisième noble vérité affirme la nécessité d'anéantir le désir, de s'en délivrer, de le supprimer, afin d'éliminer la douleur. Enlevez le combustible, vous aurez éteint le feu. Toute la doctrine le Bouddha est centré sur la suppression radicale de tous les désirs humains. C'est la seule façon de tuer l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le désir de ce qui appartient au moi. Il faut l'éliminer. Bien sûr, ça va à l'encontre. C'est exactement le contraire de ce que nous recherchons dans l'Occident. Nous cherchons l'affirmation du moi, l'épanouissement du moi, la réalisation du moi. C'est pas étonnant que les gens ont abandonné le bouddhisme, hein, quand ils ont enfin compris ce que c'était. Bon, la quatrième noble vérité, on va terminer par là, c'est la voie qui mène à la cessation de la douleur, c'est-à-dire l'état de nirvana. C'est ça qu'on cherche dans le bouddhisme, nirvana. C'est l'expérience mystique. Vous allez reconnaître ces choses. Hein. Ça ressemble beaucoup à la morale chrétienne, à la pratique chrétienne. C'est le noble sentier octuple, à savoir la vue juste, ça c'est la connaissance des quatre vérités. La pensée juste, c'est le refus de tout désir sensuel, de toute haine, de toute malice. La parole juste, c'est le rejet du mensonge et le rejet des paroles inutiles. L'action juste, une moralité qui exclut le meurtre, le vol, l'adultère. C'est-à-dire, on est dans les 10 commandements. Le moyen d'existence juste, une activité professionnelle honnête. L'effort juste, une discipline qui exige de n'avoir que des pensées et que des actions nobles. L'attention juste, c'est une conscience de soi qui exclut le désir. La concentration juste, c'est une maîtrise de son esprit afin de mieux se libérer. Donc, si tu connais les 4 nobles vérités, si tu pratiques les huit étapes du noble sentier octuple, tu arrives à l'état de nirvana. Tu te libères de l'illusion de l'existence du moi. Une chose et puis on s'arrête. Ça, c'est le grand problème des religions orientales. Vous croyez que le christianisme a un problème avec la question de la souffrance et du mal, c'est rien comparé au problème dans les religions orientales. Si moi, je me fais une illusion, j'ai l'illusion que j'existe. D'où vient cette illusion? Est-ce que c'est Dieu qui se fait des illusions? Non, ça, c'est pas possible. Est-ce que c'est moi qui me fais des illusions? Si c'est moi, ça veut dire qu'il existe autre chose que Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez la contradiction inhérente dans l'hindouisme et le bouddhisme. Si souffrir l'illusion que j'existe, d'où vient cette illusion? Cette illusion est un mal. C'est mauvais. Il faut s'en libérer. Mais d'où vient-elle? Est-ce que c'est chez Dieu? Dieu est imparfait. Est-ce que si c'est chez moi? Ça veut dire que j'existe en dehors de Dieu. Ça, c'est à réfléchir. Ça, c'est la grande faiblesse logique et même existentielle du mysticisme oriental. Bon, on vient de voir le Bouddha et son remède pour le problème de l'âme, la souffrance, qui viennent de nos désirs, son remède, c'est l'euthanasie. Pour guérir la maladie, il faut tuer le malade. Pour supprimer les désirs, il faut supprimer le moi. Pour le Bouddha, nos désirs sont trop forts. Pour Jésus, nos désirs sont trop faibles. Aime Dieu de toute ta pensée. Le Bouddha nous dit, il faut aimer moins. Jésus dit, il faut aimer plus. Est-ce que nous devons écouter le Bouddha? Oui, parfois. Le Bouddha comprend très bien les mauvais désirs. Et dans l'Occident, nous courons comme des dératés pour satisfaire nos désirs, nos convoitises, nos désirs égoïstes. Donc, quand le Bouddha parle de désir égoïste, il sait de quoi il parle. On peut l'écouter. Surtout, nous, en Occident. Le problème, c'est que le Bouddha ne connaît pas Dieu. Il connaît le désir pour des choses en dessous de nous, mais il ne connaît pas le désir d'être possédé par celui qui est au-dessus de nous. Donc, nous avons peut-être besoin d'écouter le Bouddha quand il nous parle de convoitise, de désir, mais les bouddhistes ont plus besoin de nous écouter quand nous parlons de Dieu, du Dieu qui les aime. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent la compassion, ils ne connaissent pas l'agapé.